Salut à tous, bienvenue sur On se dit les choses, le premier podcast de la République des Pyrénées et de l'Éclair du service des sports. On ouvre la saison outdoor aujourd'hui avec un petit podcast printanier en plein air, donc, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. D'où les bruits de pelleteuses, de motos, de scooters et d'avions que vous entendrez de ci, de là. Mais ça fait partie du décor. Autour de la table aussi quelques pelleteuses pour commencer. L'engin du Vigby, Christian Saint-Pé. Salut Christian.
Salut tout le monde, salut au Rugby Women de Bobigny.
Effectivement, il y a un fan club Christian Saint-Pé à Bobigny actuellement, chez les Louves, c'est bien ça, chez les Louves. En face de vous, le magicien un peu, l'homme qui a ressuscité le Pau FC, Grégory Le Thor. Salut Greg.
Bonjour à tous et bonjour surtout aux attaquants costariciens.
Aux attaquants costariciens. Jérôme Carrère est juste à côté de vous, le sorcier de la plaine.
Salut le Béarn, salut la Soule.
Et enfin, l'homme qui va faire sauter le rocher ce week-end, celui de Monaco, pas Suja, Jean Forêt. Salut Jean.
Bonjour les amis.
Pour commencer, nous allons commencer football. Nous allons commencer football parce que c'est les derniers à avoir joué, tout simplement. C'était donc mardi soir contre la Berrichonne de Châteauroux. Beaucoup de cheux dans cette présentation. Ils étaient attendus au rendez-vous les Palois pour se sortir de la zone rouge. Mission accomplie avec brio. Greg, vous étiez dans les tribunes, vous avez vibré.
C'était plus que ça, c'était des vagues d'émotions. C'était un match very important, comme on dit dans le Berry. Et pour la gagner, c'était la lanterne rouge qui débarquait au Noustecamp. Noustecamp où Pau est invaincu du coup cette saison avec ce triomphe précédent contre le Havre. C'était le match à ne pas perdre et pour la gagner grâce à une tête magnifique de Georges. Et du coup sort de la zone rouge. Alors qu'on ne les donnait pas du tout dans cette position fin janvier quand il s'était pris 3 défaites d'affilée contre des équipes de leur championnat. Et puis finalement le Mercato et Didier Tolo ont redressé les choses.
Christian, vous qui êtes à l'origine du Noustecamp, je rappelle un nom qui vous est venu un soir d'orage lors d'une promenade. Il y a, blague à part, un vrai effet, ils sont de retour à la maison, ils se sentent bien finalement dans ce stade.
Alors ils s'en défendent un peu, mais ça a dû certainement quand même jouer de vouloir, comme ils l'ont un petit peu précisé, redémarrer une aventure sur ce terrain. Il y a aussi et surtout le fruit du travail des dernières semaines avec l'intégration donc de ces nouveaux arrivés au mercato d'hiver et un effectif aussi qui, à un moment donné, donc, a vraiment pris les choses en main car c'était un petit peu sur la corde raide et c'était le moment ou jamais, quoi.
Et un mercato, on peut le rappeler, donc, qui a fait mouche avec un Myron George qu'il faut cloner. Comme l'a si justement fait remarquer Grégory Le Thor. Entre autres, une nouvelle fois décisif, Myron. Jérôme, ça doit vous faire plaisir, vu que vous êtes le seul hispanophone à milieu à la ronde. Vous en aviez parlé avec lui, il avait besoin d'amour et de confiance. Ce garçon, il rend.
Es mi chico. Ouais, non, il était... il est arrivé, Myron George, effectivement, comme on le notifie dans l'article. Il n'y a pas grand monde qui parle ni anglais ni espagnol dans l'effectif, donc il a fallu qu'il s'adapte aussi. Ça a été un peu compliqué pour lui. Il a 2-3 joueurs qui parlent anglais quand même. Mais bon, l'arrivée, du coup, quand il a posé ses valises à Pau, ça a été un petit peu compliqué, mais il s'est adapté très très vite. Et surtout, je pense qu'il était quand même conscient que maintenant sa carrière devait prendre un véritable tournant parce qu'il a 27 ans, qu'il venait d'enchaîner 2-3 prêts un peu cata. Donc en gros, Pau, c'était un peu l'opportunité aussi pour lui. Et surtout, il était très très. Impatient de découvrir le championnat français, le football français, de sortir un peu de ce football nordique. Et ma foi, pour l'instant, il semble bien s'y adapter.
Donc pour l'instant, c'est gagnant-gagnant pour le Pau FC. Pour un peu, on regretterait presque qu'il y ait une coupure ce week-end, une mini-trêve. Ça enchaînera à Grenoble avant une réception très, très, très importante, Christian, Dunkerque, hein, dans une quinzaine.
Oui, une équipe de Dunkerque qui avait très bien débuté le championnat et qui, depuis plusieurs mois... patine et c'est vraiment là aussi un concurrent direct que les Palois ont d'ailleurs dans le collimateur depuis un moment. Ils se sont aperçus que ces Dunkerquois étaient en difficulté et ce sera encore un match clé à ne pas rater, à ne pas perdre et surtout à gagner si possible.
Mercato toujours, mais là dans un autre sport, le basket. Jean, vous avez redécouvert une petite salle sympathique du côté du Camille Salier ce matin, le Palais des Sports. Où l'élan va remonter dans le bus, direction Monaco, reprise du championnat, de nouveaux joueurs. Ils étaient comment, les garçons, ce matin ?
Je ne les ai pas vus, mon cher Vincent. Ils étaient confinés sur le parquet. À vrai dire, ce matin, c'était pas vraiment entraînement, c'était workout, comme ils disent outre-Atlantique. Donc, c'était entraînement personnalisé sous la houlette de Jimmy Verov. Donc, c'était les jeunes et quelques pros, notamment Peter Cornelli, avec qui j'ai pu discuter. Mais oui, c'est la reprise. Enfin, ils sont soulagés. Ça reprend ce week-end. Premier des 23 matchs à s'ingurgiter en à peu près 3 mois. Ils attaquent par la facile, peut-être la partie la moins indigeste, puisque c'est Monaco, leader du championnat, 8 victoires, une défaite, 8 victoires d'affilée d'ailleurs. Ils ont perdu le premier match de mémoire à domicile face à Levallois, Boulogne-Levallois. Je crois que depuis, ils ont tout gagné. Ils ont battu Nanterre cette semaine en Eurocup, pour laquelle ils sont qualifiés déjà pour les quarts de finale. Il y a deux nouveaux joueurs ce week-end qui arrivent à Monaco. Donc on va dire entrer en matière difficile pour l'élan, mais peut-être idéale, puisque ça permettra justement d'incorporer les deux nouveaux qui sont arrivés donc vendredi dernier, le meneur Tony Roten et l'ailier CJ Williams. Donc là, au moins, c'est une bonne base de travail ce week-end à Monaco, à défaut d'envisager la victoire dès samedi.
Et le plus important, vous l'avez dit, Orléans. Orléans, les 3 points, si possible plein de 3 points, et Orléans le samedi suivant au Palais.
Oui, puisque l'élan reste donc sur 7 défaites d'affilée, certainement 8 ce week-end. Et ensuite, Orléans, là, ça fait partie des matchs absolument à prendre. Ils avaient perdu au match aller le mois dernier à Orléans en étant lamentable, il ne faut pas se cacher. Et donc là, ils ont vraiment une opération rachat à faire face à Orléans et face à toutes les équipes qui graviteront entre la 10e et la 18e place, hein, puisque l'élan a un seul objectif. Même si Peter Cornelli, ce midi, a osé évoquer une participation au play-off, pourquoi pas Peter, mais avant ça, avant de parler play-off, on va parler maintien. Et pour le maintien, il manque encore 7-8 victoires.
Donc, un début d'ascension ce samedi à Monaco. À la même heure, si je ne m'abuse, là je me tourne vers les gens qui aiment bien aller manger des gaufres alors qu'ils sont sous bulle, les rugbyman. Vous serez, Grégory, je crois, à l'UBB, à Chamand-Elmas, pour le retour de la section au terrain, au pré, contre donc l'UBB, la quête du maintien qui redémarre, et une mauvaise nouvelle depuis qu'on s'est reparlé, enfin mauvaise nouvelle du point de vue palois, cette petite performance de l'aviron bayonnais à Toulon, le feu au cul, je pense qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont.
Oui, alors c'est un petit peu osé comme métaphore, mais évidemment.
Aux fesses, si vous préférez.
La situation n'est pas évidente, puisque la section paloise voit effectivement Bayonne réussir un coup à Toulon, là où Pau est tombé, et surtout quelques jours après, un succès net de Toulon au Hameau. Donc c'est pas vraiment idéal pour la confiance, et surtout Bayonne a encore un match en retard contre Agen, qui, sans vouloir leur faire injure, ne sont pas particulièrement brillants cette saison. Donc ça va être délicat effectivement pour Pau, puisqu'ils doivent se déplacer à l'UBB, qui est revanchard après son revers à Brive, et avec la perspective de, si les choses tournent mal, de recevoir Bayonne le 17 avril en étant derrière l'aviron.
Mais il y a un beau bordel, excusez-moi, je suis très très vulgaire aujourd'hui, mais l'UBB avait été marqué par les cas contacts aussi du 15 de France. Pau, il n'y avait que Baptiste Pesanti. L'UBB, c'était 5 ou 6 joueurs, hein, c'est bien ça. On sait où on va là, du côté bordelais ou pas?
Il devait passer des tests ce jeudi matin justement, et Christophe Furios a dit qu'en gros, il verrait selon les résultats des tests, et si les tests étaient négatifs, à éventuellement incorporer certains joueurs. Bon, ce qui paraît aussi un petit peu compliqué, parce que certains joueurs qui sont à l'isolement depuis plusieurs jours, qui ont coupé l'entraînement, il faut aussi en général passer d'autres tests, notamment cardiaques, etc. Donc est-ce que c'est pas un petit coup d'esbrouf de la part du Rios? En tout cas, ça paraît un peu compliqué de récupérer tous ces joueurs-là.
Côté section, la température, tout simplement, vous les avez vus l'un comme l'autre ce matin. Oui, Greg?
Il n'y aura pas Baptiste Pesanti qui, lui, pour le coup, poursuit aussi son protocole. C'est clair et net, il ne s'entraînait pas ce matin. Après, toujours les mêmes absents. Donc, ça sera plutôt une question de caractère et de revanche et d'apprentissage de ses erreurs pour la section.
Une section qui prépare aussi la suite. Hein. On l'a vu ces derniers jours. Comme je dis bien, vous êtes le limier du 47. On a entendu Youat, Seneca. Il y a des petits noms qui commencent à arriver.
Rémi Seneca, le pilier de Vannes, et pour l'anecdote, le frère de Jordan Seneca, célèbre au Hameau depuis la fameuse bagarre générale en demi-finale d'accession contre La Rochelle. Donc peut-être un joueur de caractère, Il en faut. Nathan Decron, le centre d'Agen, ex-coéquipier de Rey et de Hastoy en interrégion. Donc un joueur, peut-être le meilleur joueur d'Agen cette saison, qui ne brille pas, enfin qui peine à briller dans un collectif en difficulté, mais un joueur très talentueux, vraiment une bonne recrue. Et puis Ewatt, d'Aurillac. Les mauvaises langues diront des joueurs de pro des deux, mais lui aussi c'est un vrai potentiel. Et avec le retour de celui qui s'est illustré en deuxième ligne à l'époque comme joker médical, Steven Cummins. Donc déjà 4 joueurs dans la poche.
Et dans l'immédiat, Jérôme, la tonalité du discours des Palois, vous les avez vus ce matin, que de beaux parleurs finalement vous avez eu ce matin face micro. C'est quoi est-ce qu'ils ont osé vous dire qu'ils y allaient avec humilité?
Non, ils nous ont plutôt dit quand même qu'ils voulaient récupérer des points. Alors c'est dans un sens pas mal, dans un autre pas forcément bien, parce qu'à Toulouse aussi ils voulaient récupérer des points. Bon, ils sont revenus avec les valises bien remplies. Donc on verra bien, il faudra en tout cas montrer autre chose. Ce qui est sûr, c'est que bon, ils admettent évidemment que la pression est montée d'un cran avec ce succès bâillonné, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on pressentait depuis quelques temps avec cette potentielle 13e place qu'on imaginait de barragiste, aujourd'hui ça se prend quand même... vraiment forme, comme le disait Greg, Bayonne est encore un point derrière et un match de retard face à Agen, qu'on imagine a priori plutôt perdre à Bayonne. Donc effectivement, aujourd'hui, ils sont assis sur la 13e place, ils en sont conscients. Maintenant, ils essaient de garder toujours ces fameuses ondes positives. Bon, on n'a pas eu non plus les joueurs qui s'expriment le plus ou qui donnent le plus la vraie couleur de leurs sentiments, donc c'est resté assez polissé comme discours. Mais on sent quand même, bon évidemment, aujourd'hui, ils sont bien conscients qu'ils sont sur la 13e place, qui les mène tout droit au barrage.
Très bien. Vous parliez de prendre des points. Il y en a un en ce moment qui en prend beaucoup des points et qui fait plaisir. Hein. On l'a vu ce matin à Rotterdam, un certain Jérémy Chardy qui, après un début de saison encourageant, s'est pris un peu le mur en pleine tronche hein, à l'Australie vu qu'il avait Djokovic à jouer, ce qui était quand même le meilleur cadeau possible. Le voilà bien relancé à Rotterdam, Jean.
Et oui, il est là le gars de Boy-Bezin. Il est là, et Jérémy Chardy, oui, qui est pour la petite histoire, on est qu'au mois de mars, mais est quand même le premier Français à la race, c'est quand même à signaler, c'est bon résultat, demi-finale à Antalya, demi-finale à Melbourne. Là, il est en quart de finale d'un ATP 500, donc à Rotterdam, et ce matin, effectivement, à midi, 7-6-7-6 face au 14e mondial, David Goffin, après avoir sauvé une balle de 7 au premier set, break contre lui, il a sauvé 2 balles de match au premier tour contre Hugo Humbert, le Messin. Là, il vient de gagner 4 tie-break d'affilée, donc c'est quand même les bons symptômes du gars qui joue en confiance. Donc là, aujourd'hui, il a été intraitable face à Goffin, 25 coups gagnants, je crois, 20 coups droits, 82% de première balle, enfin bon, tous les chiffres sont au vert. Et là, en quart de finale demain, rien à perdre strictement face au Russe Rublev, qui est 8e mondial. Donc un sacré frappeur aussi, donc une filière de jeu qui va lui convenir assez. Un match finalement plutôt ouvert, il n'aura vraiment rien à perdre, donc comme on le disait. Et pourquoi pas enchaîner encore avec une demi en ATP 500, ce qui serait une grosse perf. Et victoire ou pas, en attendant, il va continuer de grimper gentiment dans la hiérarchie, se rapprocher du top 50, on le dit, 20e à la race, c'est-à-dire 20e meilleur joueur mondial depuis le 1er janvier, mais dans le top 50, on va dire universel à l'ATP, c'est possible la semaine prochaine. Tout en continuant en double aussi, mon cher Vincent, puisqu'il est en demi-finale à Rotterdam avec son pote de Bayonne, Fabrice Martin, là où ils enchaînent les gros tournois, puisqu'ils ont fait finale à Melbourne, et ils sont tous les deux, la paire, dans le top 10 mondial.
Donc on a bien fait de ne pas l'inviter au tournoi interne de ping-pong à midi, parce que là on n'aurait pas vu la balle, quoi, si je comprends bien.
Ou alors ça aurait peut-être été sa deuxième défaite de la saison marquante après celle face à Djoko à Melbourne.
On va voir les choses comme ça. Dans l'actualité assez proche, il y aura aussi à suivre les handballeurs de billard demain soir, donc vendredi soir contre Massy, qui sont allés chercher une victoire surprise, mais tout en orgueil, à Cherbourg lors de la dernière journée. Christian, oui, parce que je pense handball, je vois les gros gabarits, donc je me tourne logiquement vers Christian. Je reviens vers le POFC. Cette coupure qu'ils ont à négocier, comment vont-ils la négocier justement? Est-ce qu'ils vous en ont dit un peu des choses? On va refaire un peu de fraîcheur, faut couper déjà ou pas? Qu'est-ce qu'ils se préparent de leur côté?
On imagine en tout cas de récupérer parce que Didier Tolo avait utilisé les deux mêmes 11 de départ lors des deux derniers matchs et on a vu que physiquement c'était un petit peu dans le dur face à Châteauroux. Donc on imagine qu'ils vont avoir droit comme récompense aussi après les deux victoires à une petite coupure pour après remettre les gaz et être en forme sur la dernière ligne droite.
Allez-y, Christian, je vous en prie, répondez. On continue ensuite. Alors, qui c'est? Non, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est.
La section, elle n'aura pas le droit d'éconger. Samantha, je crois.
Alors, c'était Samantha, effectivement. Samantha, on te rappelle juste après. Jérôme, vous nous disiez, excusez-moi.
Ah, je parlais repos. La section paloise, elle n'aura pas droit à du repos après son match face à Bordeaux, même si ils n'affronteront Castres que dans 3 semaines. Quand on a posé la question à Paul Tito, il a fait la moue. Il nous a dit non, là, il va falloir travailler maintenant. Donc voilà. C'est faire un petit point sur le sport et repos dans les Pyrénées-Atlantiques.
Il vaut mieux de faire la guerre plutôt que faire l'amour.
Oh, mon Dieu, j'hésite à éteindre ce micro tout de suite et à prendre ma démission. Jean, vous faites le mariole. Oui, non, mais quand on n'a pas joué pendant 6 mois comme ça, ou alors qu'on goûte comme les basketteurs de l'élan, comment ils rattaquent un sprint pareil, vous l'avez dit, tout condensé en 3 mois?
Oui, ben ils vont leur attaquer physiquement à la rue. Il ne faut, faut pas se leurrer. Enfin, c'est une équipe de Monaco, donc il y a la Coupe d'Europe pour garder le rythme. Mais là, l'élan, Laurent Villa le disait, le bémol principal, c'est le physique, notamment des deux ricains, puisque Tony Rotten, par exemple, n'a pas joué depuis le mois d'avril. Donc on ne va pas dire que c'est un avion de chance potentiel. Hein. Ce week-end, il faut pas, je ne pense pas en attendre des merveilles. C'est Jim Williams non plus. Sachant que l'élan, si le gros effort qu'ils ont à faire de manière urgente, c'est en défense. Et pour être bon en défense, il faut avoir le physique qui suit. Donc on aura déjà une première partie de réponse samedi. Mais il va falloir, je pense, une quinzaine de jours avant de trouver un élan qui trouve son rythme et qui peut se permettre de progresser au fil des matchs.
Un élan aussi en termes d'investissement défensif qui devra faire sans Amadi Ndiaye, hein, qui est encore convalescent.
Oui, tout à fait, les 2m13, donc la dissuasion du pivot sénégalais, ne seront pas là à Monaco, ça c'est un petit coup de moins bien. Il s'est fait mal face à Limoges à la main droite, il a pu jouer la semaine suivante face à Champagne Basket, on va dire, voilà, pour être précis. Et donc il y a eu une petite intervention au niveau du pouce, je crois, enfin bon, de la main droite. Pas bien méchante, mais là il a un réduc et il doit reprendre normalement la semaine prochaine pour jouer face à Orléans.
Donc il sera temps d'affiner nos analyses. Les analyses que l'on va lancer, ce seront celles du pronostic. Avec déjà un petit coup de chapeau à Grégory Le Thor qui enchaîne quand même les performances de haut vol depuis quelques semaines. Il se détache, messieurs, il se détache. Il annonce les victoires, il annonce les scores. Il manque un peu les buteurs, mais bon, il y a quand même un ratio intéressant. Donc je vais ouvrir ce tour de table par Christian. Alors, ce qui est très logique. Christian, vous allez me parler de rugby, donc, à Bordeaux-Bègles, et de basket à Monaco. Je vous écoute.
Au niveau du rugby, ce n'est pas très lisible, puisqu'on nous parle de joueurs qui ont éventuellement le Covid, on ne sait pas trop s'ils vont être alignés. Bon, si j'en crois en tout cas la dernière contre-performance de l'UBB à Brive, 25-23, défaite, si j'en crois le soufflant de Christophe Urios, je pronostiquerai donc une victoire de l'UBB, pas loin du bonus offensif.
Ah oui, c'est de l'enflammade ça. Et l'élan à Monaco?
L'élan à Monaco, je refais confiance. Ça m'a joué des tours, mais je refais confiance à Jean Fauré. Et je prévois une victoire de Monaco dans les grandes largeurs.
Merci bien Christian. Jean, allez, on enchaîne directement avec vous. On va remonter le classement un peu comme ça. Pour un terrain qui vous convient bien, l'UBB, section paloise.
Un match offensif, victoire de Bordeaux-Bègles, mais un 36-24. Avec 3 essais côté palois. Un match enlevé, mais finalement trop court pour l'emporter sur la pelouse de Chaban-Delmas. J'enchaîne sur Monaco.
Mon cher Vincent, on est d'accord?
Voilà. Non, Christian, il y aura, d'accord, je valide la victoire de Monaco, mais pas sur un gros écart, sur un score là aussi très offensif. Je pense que les deux équipes seront pas loin de passer les 90 points, un 96-89 pour Monaco. Mais qui sait, j'ose quand même y croire.
Vous êtes fou.
Je ne donne pas de pronostic, mais si j'avais.
D'ailleurs, je ne vous l'ai pas demandé, mais bon.
Si je devais donner un pronostic sur le quart de finale à Rotterdam. Eh bien oui, messieurs, dames, ça fait longtemps que le petit Jimmy ne s'est pas tapé un top 10. C'est pour demain.
C'est noté, merci. Non, non, mais attendez, oh, doucement, sinon il y a un tournoi de pétanque. Hein. Non. Jérôme, UBB.
Je sens qu'il y en a un à ma gauche qui me regarde, là, qui a les yeux posés sur moi. UBB, ça va être malheureusement une victoire de l'UBB. 30-25 avec un petit bonus défensif. Ramené par la section paloise. Et pour ce qui est de l'élan bernais... Malheureusement, je les vois un petit peu court à Monaco avec un moins 15.
Comme c'est pudique, je les vois un petit peu court à Monaco. Greg, allez, le pape de ces pronostics, livrez-nous votre vérité du jour.
Pour une fois, je suis un peu inquiet pour la section paloise. Je redoute l'esprit un petit peu revanchard du camarade Christophe Urios. Donc je vois bien l'UBB s'imposer un petit 25-17. Quant à Alain Lang, je me suis laissé dire que le camarade De Jong était en forme, bien revenu aux entraînements. Donc à mon avis, ça peut matcher avec la team Roca, je crois qu'on dit dans le jargon. Roca Team, pardon, donc ça va faire 85-83 pour l'élan sur les deux jongles, sur les deux lancers francs à la fin, il fait ficelle quoi. Sur le jongle.
Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors que, bon, moi je le dis, hein, Pau va aller gagner à Bordeaux. Et une petite défaite, bien courte, à Monaco, mais ils seront dans le match, je le confirme. Non, je ne faillote pas. Je vous souhaite une bonne après-midi. Profitez bien de ce petit soleil pour ceux qui le peuvent. Nous, on va retourner à la mine. Je vous dis bon week-end, bon match et à très bientôt pour le nouvel épisode du podcast. Au revoir. We'll be right back.